Bonjour à tous, chers auditeurices. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 33e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorités du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno ou la house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. La dernière fois, nous avions commencé à parler de ce qui a inspiré et créé le punk. Et nous avions terminé en évoquant à peine The Velvet Underground. Bien sûr, aujourd'hui, on continue. Velvet Underground est le groupe proto par excellence. La plupart des genres de rock qui viendront après découlent de ça. Le punk bien sûr, mais aussi l'alternatif, le goth, le shoegaze ou le twee. Leurs chansons parlent sans métaphore de sexe sadomasochiste. D'addiction à la drogue. Mais c'est leur deuxième album White Light, White Heat qui fera plus grande impression sur la scène punk à venir. John Cale dans Peel Slowly and See Liner Notes en 95 en dit même « C'est un disque très enragé. Le premier avait de la douceur, de la beauté. Le deuxième est consciemment anti-beauté. » La pièce centrale de cet album est Sister Ray. Trois accords élémentaires sur 17 minutes. Tout distordu, primaire et à propos de sexe, de drogue et de flingue, ça inspirera tout de Jonathan Richman et Noy à Buzzcocks en passant par Joy Division. Mais leur influence va bien au-delà. John Cale, leur altiste, celui qui joue du violon alto, essentiel pour leur drone hypnotique, produira les premiers albums des Stooges, Modern Lovers et Patti Smith. Et juste autant instigateur du metal et du punk, les Motor City 5 de Detroit, ou MC5, ajoutent une charge politique ainsi qu'une intensité et une vitesse à la formule proto-punk. Enregistré en live en octobre 68, leur single de démarrage incendiaire Kick Out the Jams commente l'abus des trop longues jam sessions du rock de la fin des années 60, préférant leur musique comme courte, aiguisée et choquante.
Right now it's time to...
Lester Bangs, un critique de musique, n'était pas fan, pensant que leur composition basique n'était pas inspirée. Kick Out the Jam sonne comme Money de Barrett Strong, si elle avait été enregistrée par les Kingsmen. Mais signé sur Elektra Records, l'album Kick Out the Jams arrivera 30e dans les charts Billboard. La chanson éponyme étant l'une des premières fois où le mot « fuck » est prononcé sur un label majeur. Mais cela fera la controverse, et pour cette raison, en plus de leurs idées politiques, les MC5 se feront virer du label. En parallèle à Ann Arbor, dans le Michigan, juste à côté de Detroit, se trouve un groupe dirigé par Jim Ostenberg, plus connu bien sûr sous le nom de Iggy Pop. Et oui, je parle donc bien des Stooges. Iggy, c'est un peu Jim Morrison avec la voix de James Brown, avec un appétit particulier pour la destruction sur scène, se roulant dans des bris de glace, étalant du beurre de cacahuète sur son torse nu, et étant peut-être, là, il y a débat, l'inventeur du stage diving. Le plongeon depuis la scène que font maintenant tous les rockers et autres artistes de musique énergique ou violente dans le but de prendre un bain de foule, porter et balader à travers celle-ci à bout de bras. I Wanna Be Your Dog de 69, sur leur premier album du même nom que le groupe, est composé de trois accords à la guitare ultra saturée de Ron Ashton, des clochettes et un drone sur une note au piano ajoutée par le producteur John Cale, et bien sûr, des paroles sales parlant de soumission sexuelle chantées par Iggy Pop. Leur album suivant, Funhouse, en 70, repoussera encore plus loin les limites de la cacophonie dans le hard rock. Mais c'est avec War Power, en 73, produit par David Bowie, que le groupe créera un modèle pour ce qu'on appellera le punk, surtout avec leur titre chargé d'amphétamine, Search and Destroy. chanson inspirera les générations suivantes. Steve Jones des Sex Pistols apprendra la guitare en jouant ce titre, et Kurt Cobain en dira que c'est l'une de ses chansons préférées. Aux États-Unis, toujours en 67, sort un autre groupe, Captain Beefheart and His Magic Band. Ils sont poussés par leur label A&M à devenir les Rolling Stones américains. D'abord inspiré par le blues classique comme Howlin' Wolf ou Screamin' Jay Hawkins, il dénature ensuite ce son en rajoutant des signatures de temps de free jazz et de la poésie abstraite. Le groupe est le plus avant-gardiste dans le rock. Leur chef-d'œuvre est leur album Trout Mask Replica en 69.
Showing at his little pistol toting. Well, that goes to show you what a moon can do.
Leur musique dedans est tellement compliquée que le groupe a répété pendant 8 mois non-stop dans une ambiance assez sectaire, les membres étant isolés, affamés, humiliés et forcés de se soumettre à leur leader.
A squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous. Got me?
Produit par Zappa, ils trouveront des fans en Beck, PG Harvey, le DJ de radio John Peel et les plus bizarres des punk et new wavers. John Lydon, alias Johnny Rotten des Sex Pistols, en dira « C'était de l'anti-musique à son sens le plus intéressant et fou. Toutes les fausses notes que les profs rejettent étaient finalement relâchées par des artistes très connus. C'était ma confirmation. À partir de ce moment, il y avait de la place pour tout. » En Grande-Bretagne, en 69, un texte clé pour la scène punk apparaît d'un endroit insoupçonné. Le premier album de Led Zeppelin prend le blues rock et le pousse à son point de fracture. Et au milieu de tous ces vols éhontés de titres des vieux maîtres, se trouve le trash sans relâche de 2 minutes et demie de Communication Breakdown. Les coups de plectre rapides vers le bas de Jimmy Page forgeront la technique de Johnny Ramone, qui s'est entraîné à la refaire pendant des heures en vue de former son futur groupe Blitzkrieg. Le Royaume-Uni, lui aussi, produisait sa propre scène proto-punk. Elle émerge de la scène contre-culture basée à Ladbroke Grove, dans l'ouest londonien, qui est elle-même issue du mouvement hippie. Des groupes comme Pink Fairies, Third World War.
Waiting on the signal. coming down the line. Load your magazine clip.
Infuseront une version radicale et à moitié apprise du rock'n'roll avec de la radicalité politique, en particulier une croyance en l'anarchie et un esprit « do it yourself ». Le plus gros de ces groupes était Hawkwind, souvent perçu comme juste un autre groupe de prog-rock obsédé par l'espace. En réalité, Hawkwind, ce sont des anti-musiciens. Pourquoi jouer quelque chose de complexe quand quelque chose de simple et répétitif peut être tout aussi fort ? Sur scène, ils étaient un torrent de bruit avec 6 musiciens, tous frappant sur une pulsion rythmique de drone avec des lumières et des projections, faisant de leur spectacle une chose unique dans ce début des années 70. John Lydon, Joe Strummer ou Captain Sensible ont tous grandi en absorbant la musique d'Hawkwind dans les festivals gratuits. Et le groupe a même réussi à atteindre la 3e place dans les charts UK avec Silver Machine en 72. Stephen Morris de Joy Division dira « Le punk a commencé parce que dans toutes les petites villes, il y avait quelqu'un qui aimait Hawkwind. » Mais la tendance d'Hawkwind à aller vers des choses épiques et sérieuses vont à l'encontre des deux principes fondamentaux du punk, la brièveté et l'éclat. Le glam rock offrait les deux. L'androgynie pleine de paillettes de la période Ziggy Stardust de David Bowie réaffirme la puissance de la pop song tout en challengeant les connaissances transmises par les prédécesseurs. Sa performance en 72 de Starman sur Top of the Pops de la BBC envoie une onde de choc à travers le Royaume-Uni, laissant des ados enchantés et des parents consternés dans son sillage.
But he thinks he'd blow our minds.
Starman provoque la consternation, mais Hang On To Yourself, sur le même album, fournit la manière de faire épurer musicalement centrale dans l'approche punk. Basé sur un riff rockabilly mutant et des paroles en référence à des guitares volées et faire la fête avec des groupies, c'était une chanson plus dure et énergique que les autres singles de l'ère Ziggy Stardust. Et elle influencera fortement des titres comme Teenage Lobotomy, The Ramones. Si Bowie était le prince alien du glam, T-Rex et Mark Bolan en étaient les bouffons. Restant 4 semaines numéro 1 des charts UK en 72, Metal Guru est une montée de sucre de 2 minutes et demie qui commence avec les hurlements heureux et légèrement faux de Mark Bolan. Solid Gold Action, un numéro 2 dans les charts la même année, est encore plus gonflé. À peu près 140 secondes de baratin sexuel hyperactif livré avec un riff d'une seule note qui n'aurait pas pu être plus primaire et simple. Ce n'est donc pas une surprise que Bolan fut un des premiers et plus enthousiastes amateurs du punk, allant jusqu'à inviter les Damned en première partie de T-Rex pendant une tournée. Marquant la différence entre la froide réserve de Bowie envers le punk rock et l'enthousiasme de T-Rex, Roxy Music ajoute des couches d'ironie rétro et de prétention d'école d'art qui seront une influence directe pour les groupes de punk de la première vague comme Susie and the Banshees, qui s'est formé après que les membres se soient rencontrés dans un concert de Roxy Music. Contrairement à Bowie ou T-Rex, le chanteur et leader Brian Ferry renvoyait une image d'arrogance presque noble qui lui ont permis avec son groupe de réécrire les règles régissant ce que peut être un groupe de rock. Le single de 73 Do The Strand recycle une des commandes essentielles du rock and roll. Tout le monde danse. There's a new sensation. A fabulous creation. A danceable solution. To teenage revolution. Do the strand love. When you feel love. It's the new way. That's why we say. Pendant que l'énergie de Do The Strand fournit la colonne vertébrale musicale, le vrai esprit de cette chanson, c'est de casser les clichés du passé et récupérer son cœur rebelle dans le présent. Puis traversons l'Atlantique. Aux États-Unis, le glam n'est pas aussi répandu et n'a pas autant d'influence que chez les British, mais c'est plus sombre et sale. À la place du raffinement de Bowie ou Roxy, les New York Dolls étaient malpropres et dépravés, les bas-fonds de tout ce glamour. We'll be right back. Leur single de 72 Personality Crisis partage ce même piétinement euphorique que le glam britannique. Mais rien n'est heureux dans ces contes de burn-out décadents. Cette musique prépare non seulement la scène pour la vague punk à venir, mais le groupe lui-même en est à l'origine. Leur manager Marty Pfau deviendra une force majeure dans la scène punk new-yorkaise, et Malcolm McLaren, en même temps que d'être leur manager au Royaume-Uni, était en train de développer ce qui deviendra les Sex Pistols. Quand le glam rock lui-même n'a pas réussi à capter le public américain, l'amour du genre pour le spectacle et les forts volumes trouveront une place dans un des shows rock'n'roll les plus gros aux États-Unis. L'existence tout entière d'Alice Cooper est une explosion des valeurs du glam et de l'énergie du punk, mixant théâtre tape à l'œil et rock mal élevé, créant un mastodonte à succès alimentant la rébellion adolescente et l'indignation parentale. Leur single de 72, Schools Out, appelle la jeunesse No Future, plus de 5 ans avant les Sex Pistols. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons bien sûr avec ce qui a donné naissance au punk. On n'a bien sûr pas fini. Subculture, c'est tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, 91 FM, sur le site radiofmplus.org via l'onglet Écoutez le direct ou via les applis mobiles, les radios associatives de la CNRA ou Radio Line, disponibles via leurs sites respectifs ou sur les plateformes de téléchargement d'applis. Vous pouvez également retrouver tous les précédents épisodes en podcast, toujours sur le site radiofmplus.org, en cherchant Subculture dans la barre de recherche du site. Quant à moi, je vous dis à plus, à ciao.